les lundis soirs à 18h10, vous avez rendez-vous avec l'actu sportive, le journal des sports de BPM. Au programme, résultats, invités, interviews téléphoniques et réactions en direct. Une seule fréquence, 102.1. BPM, la radio qui vous donne le rythme du sport partout dans le Mantois. Le journal des sports de BPM.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des sports. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc Fayot, président du Waterpolo du Mantois. Nous parlerons notamment du parcours du club en compétition et puis nous reviendrons sur les résultats de la semaine dernière dans les différents événements sportifs.
BPM, le journal des sports.
Aujourd'hui, je reçois Jean-Luc Fayot, président du Waterpolo du Mantois. Bonjour.
Bonjour.
Alors, un petit point sur l'historique du club pour commencer. Quand a-t-il été créé? Est-ce que c'est vous qui en êtes à l'origine?
Oui, nous en sommes à l'origine avec le vice-président Stéphane Roulet et la trésorière Elisabeth Klein. C'est une structure autonome qui est spécialisée dans le waterpolo, qui existe sous cette forme depuis 2016, la rentrée 2016. Au départ, c'était une section du Cercle des nageurs de Mancamp-des-Yvelines. On a fait scission à l'époque pour pouvoir avoir notre autonomie et pouvoir développer l'activité sur le bassin du Mantois.
C'est le premier club de waterpolo du Mantois dans l'ouest des Yvelines.
Oui, c'est le club, en fait, la section waterpolo. On a vraiment créé ce sport qui n'existait pas sur Mantes avant 2014, donc à l'ouverture d'Aquasport de Mantes-la-Ville. Et donc le flambeau a été repris en 2016 par le waterpolo du Mantois.
Bon, alors avant de parler de vos cours, de la compétition, on va quand même parler du sport en lui-même. Décrivez-nous comment ça se passe, quelles sont les règles. Comment fait-on pour gagner des matchs en waterpolo?
Alors, gagner des matchs en waterpolo, sur le papier, c'est simple. On marque un peu plus de buts que l'adversaire, puisqu'en fait, le waterpolo est un genre, pour vulgariser, un genre de handball qui se pratiquera dans l'eau. Donc, deux équipes de 6 joueurs de champ et gardien de but, un banc avec des remplacements libres sur 13 joueurs sur la feuille de match, qui se joue sur 4 périodes de 8 minutes effectives. Donc, à peu près un match, on peut dire, contre les fautes, dure à peu près 1h15.
Et ça se déroule donc dans une piscine de quelle superficie?
Alors, au niveau international, le champ de jeu doit faire 30 mètres sur 20 mètres. Mais au niveau régional, nous jouons sur des bassins qui vont de 20 mètres à des largeurs de 15 à 20 mètres, comme c'est le cas à Mantes-la-Ville. La principale exigence, c'est de ne pas avoir pied. En fait, je crois d'ailleurs que dans le règlement, ce n'est pas forcément interdit, mais c'est très difficile d'arbitrer dans la situation.
Et l'arbitre, il est dans l'eau ou pas?
Non, l'arbitre, il y a normalement deux arbitres, un ou deux arbitres, tout dépend des disponibilités. Il marche sur le bord du bassin, ce qui d'ailleurs est plus confortable pour lui pour regarder ce qui se passe.
Bien sûr. Alors venons-en au waterpolo du Mantois. Un mot sur les entraînements, les cours que vous dispensez. C'est quand, c'est où?
Alors, nous avons ouvert cette année, je vais commencer par l'école de waterpolo, puisque c'est la nouveauté de l'année. Donc nous ouvrons une école de waterpolo destinée aux enfants de 8 à 13 ans. Enfin, l'exigence, c'est qu'ils savent nager un minimum, évidemment. Sinon, la pratique est un peu difficile. Donc, ces cours se dérouleront les lundis et jeudis soirs, de 18h30 à 19h30 à l'Aqualude de Mantes-la-Jolie. Donc, cette offre vient compléter ce que nous avons depuis le lancement du club, c'est-à-dire une offre adulte qui est elle-même scindée en deux activités. L'activité compétition avec l'équipe qui évolue en Régional 2 cette année, et une activité loisir pour les adultes, les jeunes, les adolescents débutants, les féminines également. Et les entraînements pour cette section adulte ont lieu également les lundis et jeudis, mais de 20h45 à 22h15 à Aqualude, sur Mantes-la-Ville.
On va détailler d'ailleurs toutes les sections que vous avez. Alors d'abord, l'école de waterpolo. Donc là, vous avez dit qu'il fallait évidemment savoir nager. Est-ce que vous avez un test d'aptitude pour...
On a un test d'aptitude pour les enfants, oui, effectivement. Donc on voit leur aisance dans l'eau, s'ils peuvent être autonomes, plonger, parce que c'est juste impossible d'encadrer des enfants, un groupe d'enfants notamment, qui sont sans arrêt accrochés au bassin. Sinon, on n'a pas, à partir du moment où l'enfant sait nager, on lui apprend à jouer, puisque c'est ludique, donc le but, c'est véritablement qu'il s'amuse. Et puis, effectivement, nous perfectionnons dans les séances la natation, puisque c'est un des cursus obligatoires pour un joueur de waterpolo.
Et à terme, donc, vous avez prévu de jouer des matchs pour...
Alors, cette année, comme l'offre est nouvelle et qu'on compte avoir à peu près une dizaine d'enfants, on fera certainement pas de matchs officiels, mais plutôt des matchs qu'on organisera avec les clubs voisins, notamment de Conflans-Sainte-Honorine, ou de Saint-Germain-en-Laye pour faire jouer les enfants dans des matchs un peu officieux qui jouent simplement. L'urgence, c'est qu'ils jouent, qu'ils s'amusent et avoir des enfants. Et qu'à terme, ces enfants progressivement rentrent dans une pratique plus compétitive et remplacent les joueurs d'aujourd'hui.
Venons-en à l'équipe loisir. Qu'est-ce qu'elle fait dans la semaine et puis à quoi elle est destinée?
Alors, l'équipe loisir, elle est... en fait, on a eu il y a 2 ans la nécessité de créer cette équipe loisir puisque, contrairement aux premières années où à peu près tous les inscrits pouvaient jouer dans l'équipe 1, le niveau de l'équipe 1 a monté depuis. Et on avait une population principalement d'adultes qui venaient découvrir le water polo de manière un peu ludique et à laquelle on avait des difficultés pour les proposer du match. Donc on s'est un peu renseigné sur une manière de créer un championnat pas trop contraignant pour pouvoir proposer des matchs à cette population. Et il s'est trouvé que d'autres clubs d'Île-de-France, on en a même 8, hein, avaient un peu la même problématique. Et avec eux, on a créé un championnat qui s'appelle les Amis du Water Polo, où là, on crée des équipes complètement mixtes, avec des jeunes, des vieux, des très vieux, où on se prête des joueurs si jamais on n'y arrive pas. Bon, le but, c'est vraiment de jouer.
Ouais, voilà. C'est vraiment un championnat pour le fun.
Alors ça a un autre intérêt, c'est que ça nous permet aussi d'essayer des ados qui n'ont pas encore le niveau, mais qu'eux sont la pente montante, pour rejoindre à terme l'équipe première.
D'accord.
Alors que sinon, on n'aurait pas, du fait de nos moyens financiers limités, on est une petite structure avec 30-40 adhérents, on ne pourrait pas se payer des championnats, des inscriptions dans des championnats officiels, dans toutes les strates de ce qui est organisé par la Ligue d'Île-de-France.
Ouais, ça permet aux joueurs de pouvoir disputer des matchs, mais tout en n'ayant aucune pression liée aux résultats.
En n'ayant pas d'autre pression que celle qu'ils se mettent.
Voilà. Alors justement, un petit mot sur ce championnat que vous avez créé. Donc, comment ça se passe du coup en termes des matchs? Vous faites une phase aller, une phase retour?
Alors, en fait, on a eu, dans un premier temps, on avait vraiment une phase aller. C'était une poule à 8 équipes, donc 14 matchs à jouer. Et on s'est rendu compte après 2 saisons que cette formule était assez contraignante parce qu'en plus, elle imposait des déplacements puisque les clubs vont jusqu'à l'Essonne, le bas de l'Essonne. Donc, ouais. Bon, c'est bon pour un champion de loisirs qui se passe en semaine. C'était pas facile à maintenir à ce rythme-là du fait des activités professionnelles des uns des autres, du niveau de motivation. Donc, c'est un peu compliqué un soir de semaine d'aller se balader à Fleury-Mérogis ou je sais pas où. Donc voilà. Donc on s'est mis d'accord pour faire à la saison dernière 2 poules géographiques avec moins de matchs à jouer. Et en fait l'année dernière, la crise sanitaire a un peu interrompu ce championnat au moment où on avait terminé la première phase qui aurait dû être complétée par une phase finale, une poule haute, une poule basse. Donc ça permettait de faire un peu moins de matchs dans l'année, mais quand même de faire un petit championnat avec du classement.
Cela fait combien d'années que l'équipe loisir existe ?
L'équipe loisir a été créée dès la 2e année du club, donc en la saison 2017-2018.
D'accord, et depuis ce temps-là, voilà, est-ce que des joueurs de l'équipe loisir ont rejoint l'équipe première ?
Oui, il y a des joueurs qui jouent dans les deux, en fait. Des joueurs qui sont... alors parfois, on complète aussi, il manque des joueurs de l'équipe 1 descendent carrément alors dans l'équipe 2, ce qui veut dire qu'on a parfois des résultats très dissimilaires selon que l'on joue à domicile ou à l'extérieur, mais... Le but est vraiment de faire jouer les gens, donc ça n'a aucune importance.
Voilà. Mais le but, c'est aussi un petit peu de progresser dans la pratique.
Progresser. Donc, généralement, les jeunes ados commencent par cette équipe. Et là, on en a 2 qui, apparemment, vont s'inscrire cette année. On espère bien les faire jouer en équipe 1. Peut-être certains matchs cette année ou en fonction de leur progrès de l'année.
Parce que là, ils sont combien, du coup, actuellement, dans l'équipe loisir?
Ils sont 2 ou 3.
2 ou 3 adolescents, ouais, mais en ouais. Tout
en tout. Alors, une dizaine de joueurs, 10-15 joueurs.
D'accord. On n'a pas parlé des entraîneurs, voilà, combien sont-ils?
Alors, on a 2 entraîneurs. Alors, la particularité de notre club, c'est que l'intégralité de l'encadrement, entraîneur compris, est bénévole. Donc, on a 2 entraîneurs qui se sont spécialisés jusqu'ici dans plutôt l'équipe première, plutôt les ateliers réservés aux débutants de l'équipe loisirs. Cette année, on va voir un nouveau partage du fait de la création de water polo. Donc, un des entraîneurs va plutôt se dédier aux séances de l'école, des petits. Donc, ce sont des maîtres-nageurs diplômés, du brevet d'État, donc ils peuvent parfaitement enseigner. Et voilà, on va continuer comme ça. Alors, peut-être que ce sera un frein à terme si le club se développe véritablement, parce que il faudra certainement professionnaliser la fonction. Mais pour l'instant, on tourne sur cette formule et on espère que ça va durer.
On va maintenant parler de l'équipe première et de son parcours en compétition. Mais pour l'instant, c'est le moment de donner les résultats sportifs de la semaine dernière.
Le journal des sports, les résultats.
On commence par du football. À l'occasion du troisième tour de la Coupe de France, le FC Mantois s'est incliné 0-0, 4 tirs au but à 2 à Saint-Maur. Prochain rendez-vous pour Mantes, samedi à domicile contre Blanc-Mesnil dans le cadre de la quatrième journée du championnat de National 3. En National U17, le FC Mantois s'est incliné hier en Bretagne contre l'AS Vitré 2 buts à 1. Mantes est 8e au classement général. Et puis dans le championnat LPIFF en Régional 1, le Bougainville Sport de Mantes-la-Jolie démarre sa saison par un match nul 1 partout à Louveciennes. On passe au handball, le Saint-Marcel-Vernon commence son championnat par une victoire contre Saran, 28 points à 23. Un mot du comité régional olympique et sportif d'Île-de-France, le plan de relance annoncé par le Premier ministre Jean Castex pour activer le redémarrage de l'économie prévoit 120 millions d'euros d'aide sur 2 ans pour le secteur sportif, un appui précieux dont bénéficieront à des degrés divers les clubs, les instances et les équipements franciliens. En outre, un mécanisme de compensation sera mis en œuvre pour couvrir une partie des pertes de revenus des organisateurs de compétitions sportives. Et puis nous terminons par du cyclisme et la dernière étape du Tour de France qui partait de Mantes-la-Jolie hier. C'est l'Irlandais Sam Bennett qui s'est imposé au sprint sur les Champs-Élysées devant Mats Pedersen et Peter Sagan. Il confirme ainsi son maillot vert. Et puis voici le classement général définitif. Le Slovène Tadej Pogacar remporte donc le Tour de France devant son compatriote Primoz Roglic. L'Australien Richie Porte termine 3e. Notre consultant cyclisme Philippe Carnus est revenu sur la grosse surprise de samedi avec la prise de pouvoir de Tadej Pogacar au terme du contre-la-montre.
Ah, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Sincèrement, on connaissait le talent de ce garçon Pogacar. Il va avoir 22 ans demain. Il a remporté son premier Tour de France. Donc ça, c'est le signe des grands. Il n'y a pas beaucoup de coureurs qui ont remporté un premier Tour de France. Ça a été Eddy Merckx, ça a été Bernard Hinault notamment. Mais peu de coureurs ont remporté leur premier Tour de France. Donc c'est un signe. Alors effectivement, des rebondissements comme hier, on s'y attendait pas. Et ça vient naturellement que ce Tour rentrera par cette fin dans les annales du Tour de France. Parce que c'est vrai que 2 minutes, ça n'était pas du tout gagné pour Pogacar. De reprendre 2 minutes à Roglic. Roglic, il fallait quand même qu'il soit vigilant. Ben, je ne sais pas, peut-être a-t-il peut-être tergiversé dans la nuit, peut-être la pression a peut-être été trop forte, ça c'est dans l'inconscient du sportif. En tout cas, Pogacar a fait un super bel exploit qui fera date dans l'histoire du Tour et il va donc dans quelques heures remporter pour la Slovénie son premier Tour de France. Alors ça, il ne faut pas oublier aussi que c'est historique, parce que l'année dernière, historiquement, on a vu la première victoire d'un Colombien sur le Tour de France. Là, on va avoir une première victoire slovène sur le Tour de France agrémenté d'un doublé. Donc là aussi, on aura, de par ces résultats, donc un Tour de France historique et particulier, certes, mais un Tour de France, en tout cas, moi j'ai trouvé de bonnes lignées, vu surtout les conditions dans lesquelles ce Tour a été préparé.
Et puis nous avons interviewé Nicolas Petrel, chauffeur des speakers durant le Tour de France. Il nous explique son travail durant les 3 semaines et les mesures sanitaires qu'il a dû respecter.
Mon rôle, c'est d'amener les speakers à l'arrivée, sur la zone d'arrivée, 3h30 avant, pour qu'ils puissent commenter la course et puis aussi la caravane publicitaire qui est très importante sur ce tour quand même. On arrivait tard le soir et puis on partait les derniers le lendemain. Mais c'est sympa parce qu'on voit quand même comment tout se passe, l'organisation. On voit que c'est bien réglé et puis on arrive au point où il faut et je dépose les speakers et je vais chercher les classements, la permanence pour eux. Je les dépose à quoi, de 300 mètres ou 100 mètres ou même sur la ligne des fois, ça arrive. Et après, je vais chercher à la permanence les classements et après je leur amène. Et après, je suis avec eux dans la cabine s'ils ont besoin de moi. Là, avec le Covid-19, nous, on a été contrôlés 3 fois quand même. On a fait un test 3 fois. On est hors bulle. On est qu'ensemble. Nous, moi, je suis avec les animateurs. On est un groupe de 10. On se mélange pas. On fait attention. On met le masque. On se lave les mains. Les coureurs, on n'a même pas le droit de les approcher. Là, des fois, on est tombé sur une équipe Arkea qui est à l'hôtel avec nous. Ils sont carrément à part, une salle à part. On n'a pas le droit de traverser la salle. Les gars, ils font attention. C'est leur job. Et s'il y a 2 coureurs qui sont positifs, l'équipe a s'en aller. L'équipe fasse très très attention et ça a été bien respecté.
Une petite page de pub et on se retrouve pour la seconde partie du Journal des Sports.
BPM, le Journal des Sports.
On entame la seconde partie de votre journal des sports, toujours avec Jean-Luc Fayot, président du club waterpolo du Mantois. Nous avons parlé de l'école de waterpolo, de l'équipe loisir. Passons maintenant à l'équipe première faite pour la compétition. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler le chemin parcouru par l'équipe première depuis la création du club ? À quel niveau elle a commencé et où elle en est aujourd'hui ?
Alors, l'équipe première, vu que c'était un nouveau club, a commencé au plus bas niveau régional, puisqu'il n'existait pas. Bon, je dois avouer qu'on a quand même perdu beaucoup de matchs et qu'on a un peu attendu avant d'en gagner un la première saison. Donc, on a naturellement terminé derrière, puisqu'on avait en fait une équipe qui était partie avec trois anciens qui avaient joué en division nationale, mais qui encadraient une équipe de joyeux débutants bon, qui se sont jetés dans la bataille. Et on a eu une progression assez constante. Donc, dès la deuxième année, on a commencé à sortir de la zone de la dernière place. Pour se livrer à une lutte pour la montée, on a été à peu près dans le milieu du championnat, à lutter jusqu'à la dernière journée. Alors, c'est un championnat plus difficile qu'il n'y paraît, parce que vous y trouvez des équipes réserves de clubs qui jouent en national et qui parfois mettent des effectifs à géométrie variable. Donc on peut se retrouver finalement à perdre un match qu'on n'aurait pas dû perdre, parce qu'on a eu la malchance de jouer un jour où il y avait de la disponibilité de très bons joueurs. Donc en fait, c'est un championnat dont il est assez difficile à sortir. Mais cette année, nous avons terminé invaincus et nous montons en Régional 2. Donc voilà, donc il aura fallu finalement 6 saisons, donc 2 sous le drapeau du CNMY et 4 sous la saison sous le drapeau du waterpolo du Mantois, pour accéder à cette Régional 2. Et on en est assez fiers parce que le parcours a été quasiment sans faute cette année avec des scores largement acquis en notre faveur contre des clubs comme le Racing Club de France, par exemple.
Oui, c'est vrai. Bah, alors, un petit rappel, parce que c'est vrai que là, vous parlez des scores. On n'imagine pas, enfin, on ne connaît pas trop les scores au waterpolo. Donc, un match serré, par exemple, ce serait quoi le score ?
En général, vous avez à peu près 20 buts par match. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Donc, un score serré, ça va être 19,
ouais.
18, 12-10.
D'accord. Comme ça. Et là, vous avez quand même plusieurs fois gagné par 15-20 points d'écart.
Cette année, oui, on a eu des matchs à 24-3, si je me rappelle bien, ou 25-6. Voilà, et puis il y a eu un match nul cette année qui a été contre la Garenne. Mmh. Et je dois admettre, j'y étais pas. Je pense qu'on s'en est bien sorti ce jour-là.
Oui, mais voilà, le bilan est vraiment excellent, effectivement. 7 victoires, un match nul. Du coup, cela vous propulse en championnat régional 2.
Oui.
Alors, la saison qui vient, quels sont vos objectifs et comment ça va se dérouler ? Vous savez déjà, vous connaissez vos adversaires ?
Non, le calendrier n'est pas fixé. Alors, on est comme un peu tout le monde, dans une situation un peu inconnue, dans la mesure où les règles sanitaires ne sont définies que pour le championnat professionnel, enfin, championnats nationaux, dont le championnat élite. La déclinaison vers les championnats régionaux est en cours. On n'est pas sûr qu'elle ne soit pas durcie compte tenu de la recrudescence de l'épidémie qu'on observe. Donc on ne sait pas trop. Alors on connaît forcément les équipes, puisque c'est les équipes qui étaient en régional de l'année dernière et qui n'ont pas été promues. Donc on sait à peu près quels seront nos adversaires. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si finalement il y aura à nouveau 3 régionales, si les clubs ne vont pas finalement jeter l'éponge cette année compte tenu des circonstances, et on ne sait pas quand va commencer le championnat. D'habitude, le championnat commence, on est déjà inscrit à la date d'aujourd'hui, championnat commence début octobre, 15 octobre, mi-octobre. Là, ça nous paraît difficile de savoir si on pourra commencer avant les vacances à Toussaint, par exemple, puisqu'on parle de tests PCR imposés à chaque joueur qui évoluera. On entend tous que les laboratoires qui proposent des tests sont surchargés, donc il faut être capable d'organiser tout ça en temps et en heure, donc on est un peu dans l'inconnu. L'année dernière, le championnat a été interrompu à la fin du premier tour, donc en mars, un moment où ça nous avait permis de réaliser l'intégralité des rencontres, de rencontrer toute l'équipe du groupe, mais il y avait une phase finale prévue qui n'a pas eu lieu. Là, on imagine que le début du championnat va être retardé, on espère le moins possible. On est vraiment dans l'attente, là.
Oui, vous n'avez pas eu d'infos pour l'instant des organisateurs.
Les petit à petit, on attend. Là, j'ai vu passer un recensement sur les équipes qui comptaient repartir, donc la Ligue essaie d'organiser ça.
Et du coup, vos objectifs pour cette saison ?
Nos objectifs, nous maintenir, mais pour être honnête, plus y affinité.
Bien sûr, on s'interdit rien.
Vu la marge avec laquelle on a évolué cette année en Régional 3, on pense qu'il est possible d'accrocher une montée, mais après, on aura des équipes un peu plus aguerrées que nous. Donc, mais on fera ce qu'il faut, on ne laissera pas une opportunité de monter en régional.
Alors un petit point, l'année dernière, enfin la saison dernière, vous étiez 5 en régional 3, et cette année en régional 2, vous serez combien ?
C'est un groupe normalement de 8 ou 9, puisqu'en fait la règle au moment de l'arrêt a été de proposer les montées aux équipes en tête, mais de ne pas faire descendre les équipes dernières. Donc on peut se retrouver avec nous qui montons, plus des équipes qui auraient dû être reléguées, qui n'ont pas été reléguées. Donc normalement c'est des poules de 8, on sera peut-être 9. Donc là, c'est l'inconnu du moment, mais l'hypothèse la plus vraisemblable est qu'on soit 9.
Combien d'équipes montrées ?
Normalement, c'est une équipe qui monte.
Une seule, ah oui.
Ouais, faut être champion.
Ouais, donc la tâche sera quand même ardue.
Oui, mais...
Mais vous êtes sur une bonne lancée, donc il y a de quoi avoir les dents longues. On a évoqué le Covid hein, par moment. Voilà, quel a été l'impact sur le club, sur, ce que vous, sur les manifestations auxquelles vous êtes liés tout au long de l'année ?
Bah, ça a été assez brutal puisqu'on a, comme je l'ai dit, eu le temps de terminer la phase de régulière de Régional 3. Et ça s'est arrêté brutalement. Pour une simple raison, c'est que les piscines fermaient, donc ça devient tout de suite beaucoup plus difficile.
Quels sont les événements qui ont été annulés
La fin du championnat loisirs, typiquement. La phase finale qui avait été envisagée par les Ligues d'Île-de-France pour la Régionale 2 pour compenser le fait qu'ils n'avaient que 5 équipes. Bon, ils avaient proposé un championnat à deux temps, une phase régulière, une phase finale pour qu'il y ait des matchs à jouer, passer le mois de mars. Donc ça a été annulé. Et puis pratiquement tout, en fait, on a été à l'arrêt. Après, on a été confinés de toute façon.
Donc, ouais.
Donc les piscines ont repris à partir du mois de juin, mais à ce moment-là, la saison était terminée pour nous. Donc,
Qu'y avait-il comme événements, des événements particuliers, hormis donc les championnats ?
On n'avait rien prévu de particulier. Alors, on a toujours dans l'idée d'organiser des événements de promotion du sport. C'est-à-dire en faisant des matchs de démonstration en week-end. Généralement, on joue en semaine, mais plutôt en week-end pour que le public puisse venir. Éventuellement, en invitant des équipes de haut niveau ou des joueurs de haut niveau. Bon, on ne l'avait pas câblé l'an dernier. En fonction de comment se déroule la saison, on envisage de le faire au printemps prochain, par exemple, fin de saison, quand les joueurs qui sont engagés dans leur championnat sont libres pour venir nous aider à faire ces exercices de promotion. Ça peut être également faire venir des joueurs nationaux qui jouent en élite pour encadrer les petits, pour leur faire un peu l'exposé du sport et puis leur mettre un peu des étoiles dans les yeux. Voilà, mais pour l'instant, alors sur le passé, on n'a pas eu le temps de vraiment se pencher sur la saison dernière. Pour cette année, on va un peu voir comment les championnats redémarrent et si on pourra proposer cela en fonction des contraintes sanitaires à partir du printemps, certainement.
Au niveau de la situation du club, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Est-ce que le Covid a eu un impact vraiment négatif de ce côté-là ?
Alors, est-ce que le Covid va avoir un impact sur nos inscriptions ? On n'a pas l'impression. À vrai dire, là, la plupart des membres reviennent, sauf départ en province ou événements normaux hein, de la vie. Pour l'instant, on est vraiment dans l'attente. On ne sait pas dire si... On avait peur, effectivement, que beaucoup de joueurs ne reprennent pas. Ça n'a pas l'air d'être le cas. On en saura un peu plus à la fin du mois, quand tout le monde se sera inscrit ou pas inscrit. Mais on n'anticipe pas quelque chose de très négatif de ce point de vue-là. On a au contraire plutôt enregistré pas mal d'intérêt aux rencontres sport et culture de Mantes-la-Jolie, où pas mal de gens sont venus faire des essais lundi notamment, parce qu'on offre cette possibilité, plutôt que d'en parler, mettez-vous dans l'eau et regardez. Hein.
Voilà.
C'est beau. Et en général, on a un taux d'inscription suite à ces essais qui est assez significatif, qui n'est pas de 100% bien sûr, mais qui est assez significatif. Donc non, pas trop d'inquiétude sur le court terme. Les difficultés, c'est ce que j'ai un peu évoqué rapidement, c'est comment croître si jamais véritablement la sauce prend, ce qu'on espère, parce qu'il y aura forcément beaucoup plus de créneaux qu'il faudra demander aux délégataires de services publics qui gèrent les piscines, donc au GPSEO, donc des lignes d'eau qu'on loue, qu'il faudra certainement penser à professionnaliser l'encadrement technique, embaucher des entraîneurs. Donc là, effectivement, c'est des questions qui ne se posent pas à court terme, mais qu'il faudra mettre sur la table. Aujourd'hui, on tourne avec ce tour complètement bénévole, avec un nombre de créneaux relativement limité. Il faut savoir qu'on joue les matchs sur nos créneaux d'entraînement. Donc à chaque fois qu'il y a un match, on perd un entraînement. À l'heure actuelle, du fait du coup de l'obtention de ligne. Voilà.
Je vois.
Donc c'est un problème que rencontre aussi le club de natation, le CNMY, hein, sur cette structure de délégataire de service public, qui a un contrat. Donc on a des protocoles avec eux. Et voilà, donc c'est la difficulté. Bon, mais on l'a depuis qu'on est né. Pour l'instant, on reste sur notre portage. Bon, le problème va être quand on va grandir. Comment on va pouvoir faire pour financer tout ça ? Donc, est-ce qu'il faudra faire plus de subventions ? Est-ce qu'il faudra falloir créer des clubs d'entreprise ? Des choses qu'on avait envisagées en un premier temps, qu'on a un peu mis dans le futur, là, pour l'instant. On va déjà Et c'est une chose qu'on envisage, de créer des clubs d'entreprise pour obtenir des sponsors, des aides, des partenaires, et voilà.
Parce que du coup, là, depuis que vous êtes né, vous constatez une évolution positive du nombre d'inscrits, c'est ça ?
On reste, pour fixer les idées, on a été 25, la première année, on est 29, c'est une évolution. Alors, on peut faire des pourcentages, on va dire c'est beaucoup, mais enfin, ça fait quand même que 5 membres. Avec les petits, je pense que ça peut aller plus vite, puisque bon, la première année, on va peut-être un peu patachonner, il va y avoir 10 enfants, on compte sur 10 enfants, mais après, on compte sur le bouche à oreille, les enfants qui amènent leurs copains, et puis on est vu, on existe. Déjà, rien que le fait d'être présent au forum des associations, là, nous a donné une visibilité qu'on n'avait jamais eue jusqu'ici. Donc,
ah oui.
Voilà, donc les parents viennent pour... généralement, on partage le stand, on a partagé le stand avec le club de natation. Bon, le flux naturel est d'aller vers la natation pour que l'enfant apprenne à nager, mais on voit que les gens regardent notre stand quand même. Voilà, donc la croissance se fera par ce biais-là, donc je vous donne rendez-vous un peu plus tard, je vous dirai combien on est, mais après avec le terme à la mode, c'est les jauges, avec les créneaux qu'on a, on peut difficilement monter à plus de 40-50 membres, même 50 c'est quasiment impossible à gérer dans le bassin sans plus de séances, donc on tient dans un modèle qui est marginal, mais qui tient encore, donc voilà.
Pour conclure, pour vous rejoindre, si on veut s'inscrire, si des jeunes auditeurs ou des adultes veulent s'inscrire à votre club, comment ils font ?
Alors, ils peuvent déjà venir tout simplement à quoi le sport, les lundis et les jeudis pour faire un essai. Donc, il faut venir à 20h30 pour qu'on puisse être sur le bord du bassin à 20h45 et pas perdre trop de temps par rapport au temps dans l'eau. Sinon, ils peuvent venir sur notre site qui est www.waterpolodumantois.fr et ils trouveront des renseignements sur le club et des chevilles d'inscription avec les tarifs des cotisations suivant les sections.
Merci à vous, Jean-Luc Fayot, d'être venu dans nos studios pour nous parler du waterpolo du Mantois.
Merci de votre accueil.
C'est la fin de ce journal des sports. Vous pourrez le réécouter demain mardi à 12h10. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.
Le journal des sports de BPM.